Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Une bombe qui explose au milieu des députés, un président que l'on assassine. La belle époque, c'était aussi cela, comme nous le raconte aujourd'hui sur Europe 1, Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Les noms de Ravachol, de Caserio, de Bono ne nous disent peut-être plus grand-chose. Ils ont pourtant incarné en leur temps une certaine forme de violence politique. C'était à l'époque où l'anarchisme semait la terreur.
Et vous avez invité sur Europe 1 pour en parler votre complice de l'ombre d'un doute.
Eh oui, Christophe Bourseiller, qui est maître de conférences à Sciences Po et spécialiste des groupuscules de toute nature. Son dernier ouvrage sur l'extrémisme aux éditions du CNRS consacre notamment de belles pages à l'anarchisme et aux anarchistes, retour en sa compagnie, un bon siècle en arrière.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
À nos yeux, la belle époque reste souvent celle des belles dames à taille de guêpe et chapeau à voilettes, des beaux messieurs à moustaches cirées sous leurs canotiers, des lampions de fête, des jeux de cerceaux, des orques de barbarie. Nous avons à l'esprit des images placides, bon enfant, pour ne pas dire un peu compassées. Et nous oublions un peu vite que cette belle époque fut aussi celle des grèves violentes, des parades militaires dans tous les sens et des attentats anarchistes. Nous avons occulté quelques ombres au beau tableau impressionniste. Et par exemple, personne ne rappelle jamais qu'aux aurores de cette belle époque, le président de la République en personne, Sadi Carnot, est mort sous les coups d'un jeune extrémiste italien. Il a été élu 6 ans et demi plus tôt, Carnot, descendant, comme son nom l'indique, du grand révolutionnaire Lazare Carnot, il en est le petit-fils et c'est du reste un de ses rares titres de gloire que d'être le petit-fils de l'organisateur de la victoire. Un républicain modéré, peu brillant, mais ferme et intègre, et qui vient de s'acquitter honnêtement de son mandat de ministre des Finances qu'en ne pouvant trouver de majorité suffisante pour élire Jules Ferry à la magistrature suprême, les parlementaires réunis en congrès, vous savez qu'à l'époque c'est ainsi qu'on élit le président de la République, les parlementaires ont donc reporté leur voix sur lui. C'est le fameux « votons pour le plus bête » de Clémenceau, toujours cynique. On rapporte à propos de Sadi Carnot une anecdote assez étrange. Quelques mois avant son élection, le grand scientifique Gustave Le Bon, ami de la famille, était rentré d'un voyage d'études aux Indes, comme on disait alors, et il avait dans ses bagages une statuette qu'il a offerte à Sadi Carnot en lui disant « Il y a une drôle de tradition à propos de cet objet. Elle a longtemps, cette statuette, elle a longtemps appartenu à la dynastie des rois du Rajurao. » Elle passe pour attirer sur son détenteur à la fois le pouvoir suprême et la mort violente. Alors soyez libre d'accepter ou non mon cadeau. Je comprendrai très bien que cette superstition vous effraie. Sadi Carnot préféra en rire. Il n'aurait peut-être pas dû, puisque en 1887, alors que rien ne le laissait prévoir, il se retrouvait donc élu président de la République et que moins de 7 ans plus tard, le 24 juin 1894, il était assassiné à Lyon. Vous avouerez qu'il y a quand même dans l'histoire d'étranges coïncidences, pour ne pas parler d'ironie. Alors que faisait le président Carnot à Lyon ce jour-là? Il était venu présider le banquet de la foire. À la sortie, il monte, vous savez, dans sa calèche présidentielle, entouré de ministres et de membres de sa maison militaire. La voiture est attelée à la Daumont, c'est-à-dire à 4 chevaux, dont 2 sont montés par des postillons. C'est l'attelage de parade. Soudain, un jeune homme fend la foule, puisqu'il y a autour une foule qui vient voir le président, qui vient l'applaudir. Ce jeune homme bondit sur le marchepied et, un peu comme Ravaillac 3 siècles plus tôt, il se jette sur le chef de l'État qu'il poignarde à la poitrine en criant « Vive la Révolution, vive l'anarchie !» On arrête aussitôt ce jeune homme. Il faut dire qu'il n'a pas du tout cherché à fuir. Au contraire, il tournait autour de la voiture en criant « Vive l'anarchie !» Il se révèle être un Italien de 20 ans, d'origine lombarde et paysanne, Sante Geronimo Caserio. Le manche de son couteau a été peint en rouge et noir, les couleurs de l'anarchie. Et du reste, le gamin ne fait pas mystère de ses convictions. Voici notamment ce qu'il va déclarer devant la cour d'assises qui, un mois après les faits, devait le condamner à mort. Eh bien, si les gouvernements emploient contre nous les fusils, les chaînes, les prisons, est-ce que nous devons, nous les anarchistes, nous qui défendons notre vie, est-ce que nous devons rester enfermés chez nous ? Non. Au contraire, nous répondons au gouvernement avec la dynamite, la bombe, le stylet, le poignard. En un mot, nous devons faire notre possible pour détruire la bourgeoisie et les gouvernements. Vous qui êtes les représentants de la société bourgeoise, si vous voulez ma tête, prenez-la. Message reçu par les jurés, puisque le 16 août 1894, quelques jours plus tard seulement, la tête de l'assassin finissait dans le panier de son du bourreau. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'en assassinant le président Carnot, le jeune Caserio avait le sentiment de se sacrifier pour un acte héroïque. Il vengeait lui-même Auguste Vaillant, qui, en décembre de l'année précédente, avait, depuis la tribune du public, jeté une bombe à la Chambre des députés en plein hémicycle. La bombe avait explosé, mais fait seulement quelques blessés légers. Le symbole n'en était pas moins très fort. On pensait, étant donné qu'il n'y avait pas eu de victime, que le pauvre Vaillant, un homme au désespoir, qui avait des dettes partout, qui menait une vie terrible et qui avait voulu faire de son acte un cri des pauvres et des exploités, on pensait donc que Vaillant serait au pire condamné aux travaux forcés à perpétuité. Eh bien, pas du tout. Pour la première fois depuis le début du siècle, un tribunal français condamnait à mort un homme qui n'avait pas tué. Restait tout de même la possibilité d'une grâce présidentielle qui, dans ce cas précis, paraissait acquise. Pas du tout. Le président Sadi Carnot avait refusé la grâce. Et dans le journal Le Parti Socialiste, un certain Breton avait prophétisé, je le cite, « Dans le cas où le président de la République choisirait froidement la mort de Vaillant, il n'y aura plus en France un seul homme pour le plaindre s'il lui arrive un jour le petit désagrément de voir sa carcasse de bois disloquée par une bombe. » On avait la plume acerbe à l'époque. Après l'exécution de Vaillant, Carnot est donc devenu, sur les tracts anarchistes, Carnot le tueur. Un de ses tracts prophétise, là encore, « Tu as eu la tête de Vaillant, nous aurons la tienne, Carnot. » Le bras de la vengeance sera celui de Caserio. Vous commencez à saisir la violence sous-jacente de cette société si policée en surface. Vous comprenez l'engrenage qui est en train de se mettre en place. Je vais revenir à présent sur la genèse de toute cette violence anarchiste. Laissez-moi juste vous préciser qu'à sa mort, des années plus tard, Madame Veuve Sadi Carnot laissait dans son testament cette prière à l'adresse de ses enfants qu'ils se débarrassent par n'importe quel moyen de la statuette rapportée des Indes par le professeur Lebon.
Sur Europe 1 du Préludium Monde Allegro composé par Fritz Kreisler Frank.
Jean Prépozier, qui est un des historiens de l'anarchisme à cette époque, situe l'origine des violences anarchistes en septembre 1880, lors d'une réunion tenue à Vevey, en Suisse, où des bakouniniens, c'est-à-dire des disciples et des continuateurs du théoricien russe de l'anarchisme, Bakounine, on en reparlera dans un instant, il était lui-même mort en Suisse quelques années plus tôt, donc en cette année 1880, des bakouniniens proposent de tourner le dos à la légalité et de s'engager dans l'action illégale violente, seul moyen à leurs yeux de hâter la révolution prolétarienne qu'en fin de compte ils appellent de leur vœu. Le 14 juillet 1881, à Londres, ce sont les mêmes, en majorité du moins, qui clament la nécessité de la destruction intégrale par la force des institutions politiques et économiques. Et quelques semaines plus tôt, ça il faut le dire, à Paris, il y a eu rupture définitivement consommée entre anarchistes et socialistes. Il y a sans doute dans ce tournant de la décennie 80, tout un faisceau, vous comprenez bien, de conditions qui vont aboutir à des actions violentes. Désormais, des feuilles anarchistes comme le drapeau noir, l'affamée, la lutte sociale expliquent posément à leurs lecteurs comment on peut fabriquer une bombe. C'est en vente libre. Notez bien, Jean Préposier insiste beaucoup sur ce point, que tous les actes violents de cette période, tous les attentats, seront le fait non pas d'organisations structurées, mais d'individus agissant de leurs propres faits. Et tout a commencé en 1891 avec ce qu'on appelle l'affaire de Clichy. Il y avait eu des manifestations pour le 1er mai à Clichy et à l'issue de ces manifestations, la bagarre éclate comme souvent entre manifestants et forces de l'ordre, comme on dit, en l'occurrence entre policiers et anarchistes. Des coups de feu sont échangés. L'un des libertaires, il s'appelle l'Éveillé, reçoit un coup dans la cuisse. Les agents du commissariat finissent par intervenir, vont arrêter un certain nombre de manifestants, dont l'Éveillé donc, dont Descamps, Dardard, qui sont accusés d'avoir semé le trouble, d'avoir causé les violences et qui vont passer en cour d'assises. Ils passent devant les assises de la Seine le 28 août 1891 et ils sont condamnés à des peines de prison extrêmement lourdes, ce qui bien entendu surprend une partie de l'opinion et ce qui choque un certain Ravachol qui, au mois de juillet 91, donc dans la foulée, décide de venger deux des condamnés qu'il connaissait. Je vous explique pas comment, c'est un peu compliqué. Donc Descamps et Dardard étaient des amis, on va dire, ou apparentés à Ravachol. Et donc il décide de se venger. Alors il a lui-même un certain nombre de complices, un certain nombre de compagnons, devrais-je dire. Le jeune Achille Simon, notamment, qu'on appelle Biscuit. Le forgeron Joseph Jabéala. Bref, un certain nombre qui vont décider de se venger du juge Benoît, qui dirigeait, qui présidait ce tribunal de cette cour d'assises de la Seine. Alors ils se rendent le 11 mars 1892 au boulevard Saint-Germain, au numéro 136, où réside le juge Benoît. Comme ils ne savent pas exactement à quel étage il habite, ce qui manque quand même, entre nous, soit dit, un tout petit peu de professionnalisme.
Enfin, ouais.
Ils installent leur bombe dans l'escalier au milieu de l'immeuble. Ça fait des dégâts matériels considérables. Il n'y a pas de victimes. Et ce qui est plus étonnant, c'est que le seul étage qui est resté parfaitement intact et qui n'a pas été touché, c'est l'étage où se trouve l'appartement du juge Benoît. C'est souvent comme ça. Quelques jours plus tard, on s'attaque de nouveau à l'un des membres de la cour, le substitut Bulot. Alors la bombe était prête en tout cas pour un attentat, mais finalement les policiers avaient réussi à infiltrer le petit groupe d'anarchistes et l'on fait des arrestations en masse. Biscuit, Jasbeala dont je vous parlais, Mariette, Soubert, enfin un certain nombre des compagnons de Ravachol sont arrêtés. Ravachol, lui, arrive à échapper, il passe à travers les mailles du filet et le voilà qui prend l'omnibus pour se rendre au domicile du substitut Bulot qui habite 39 rue de Clichy, toujours avec sa marmite, comme on disait à l'époque, avec sa bombe artisanale. Là encore, il ignore décidément où se trouve l'appartement du substitut et il laisse la bombe à la nitroglycérine sur le deuxième palier. L'explosion cette fois va faire quand même 7 blessés, causer des ravages considérables dans l'immeuble. On a compris cette fois que c'était Ravachol qui était à l'origine de toute l'affaire. La police en profite pour lui coller sur le dos un certain nombre d'autres attentats dont on ne saura jamais à quel degré d'implication Ravachol se trouvait. Toujours est-il qu'il se fera finalement arrêter au restaurant Véry sur le boulevard Magenta. Il n'avait pas été très discret, Ravachol, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est arrêté, il est condamné. Alors dans un premier temps à la prison, mais puisqu'on le tient, on va en profiter pour le juger pour d'autres actes qu'il avait commis bien plus tôt. Cette fois de façon incontestable. Et il ne peut sauver sa tête devant les assises de la Loire. Il sera guillotiné à Montbrison le 11 juillet 1892. Le moins qu'on puisse dire, c'est que si les anarchistes ont déclaré la guerre à la société, comme vous pouvez le constater, n'a pas du tout l'intention de se laisser faire. Dans un instant, donc en compagnie de mon ami Christophe Bourseiller, nous allons revenir sur la naissance de cet anarchisme en France, sur les violences, il y en a eu d'autres, on va en parler, et puis nous verrons ce qui se passait également à l'étranger, et nous essaierons d'aborder également l'anarchisme sous un autre angle, sous un angle culturel, qui est peut-être finalement ce qui, à notre époque, reste encore aujourd'hui de plus vivace.
êtes au cœur de l'histoire sur Europe 1. Voici un extrait de La Fuite en voiture, extrait de la bande originale du film de Philippe Fourastier, La Bande à Bonneau.
Eh oui, La Bande à Bonneau. Alors encore d'autres anarchistes, peut-être un peu moins purs que les premiers dont je viens de parler. Alors, Vaillant, nous avons parlé de Vaillant, de Caserio qui venge Vaillant. On dit un mot de Ravachol. Il y aurait beaucoup à dire sur Ravachol parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a vraiment chargé son dossier et qu'il a un peu servi de paratonnerre, si je puis dire. Il y a toujours dans ces procès qui sont en partie, bien que évidemment ce sont des procès de droit commun et pour cause, mais il y a toujours une dimension politique. On ne peut pas exclure la notion de bouc émissaire. Là, évidemment, on peut dire que Ravachol, entre autres, a payé pour un certain nombre d'autres. Il y en a un dont il faut qu'on parle, c'est Henri. Parce qu'il est le premier, Christophe Bourseiller, à s'attaquer, lui, à la société de manière aveugle. Il ne vise pas tel ou tel magistrat, tel ou tel homme politique. Il décide de faire sauter carrément la terrasse d'un café à la gare Saint-Lazare pour se venger de façon aveugle de la bourgeoisie qui est l'ennemi de ces anarchistes de l'époque.
Alors effectivement, Émile Henry, on pourrait dire, se place à proximité du nihilisme russe. Vous savez, c'est une époque, on parle du terrorisme anarchiste, mais cette fin du 19e siècle était marquée par une très forte violence individuelle. Il y avait plein de sociétés secrètes conspiratives. Alors il y avait la main noire serbe, par exemple, qu'on verra à l'œuvre en 1914. Il y avait les nihilistes russes, il y avait les anarchistes, il y avait des groupes de toute obédience qui pratiquait.
La main noire avait armé la main de Princip, hein, qui a tué l'archiduc François Ferdinand.
Mais oui,
Sarajevo.
C'était la main noire, donc qui était un autre groupe qui n'avait rien d'anarchiste. Et donc Émile Henry, c'est vrai, s'inscrit dans cette époque-là. C'est un personnage assez fascinant parce qu'il est cultivé. Émile Henry, c'est pas un prolétaire. C'est quelqu'un qui a fait des études, c'est quelqu'un qui a travaillé, et c'est quelqu'un dont les premiers attentats sont des attentats de type anarchiste traditionnel, c'est-à-dire ciblant, on pourrait dire, des lieux du pouvoir. Et puis c'est vrai qu'il y a cet attentat contre le café Terminus, mais méfions-nous de ce qu'on dit d'un attentat anarchiste, parce que vu depuis la police ou vu depuis les journalistes, l'attentat peut sembler aveugle, alors que très souvent l'auteur de l'attentat, lui, posait la bombe en visant une personne particulière ou pour une raison particulière. On ne le sait pas.
Oui, on est étonné du caractère quand même un peu expéditif des enquêtes qui sont menées, c'est-à-dire qu'on charge les accusés mais on n'entre pas dans le détail de leur motivation ou dans tout le processus du crime, hein, loin de là.
C'est-à-dire que vis-à-vis des anarchistes, on a l'impression, d'une certaine façon, alors c'est peut-être faux, c'est peut-être une impression subjective, d'une certaine justice orientée. C'est-à-dire qu'on a peur des anarchistes qui incarnent par leur discours tout ce que la société récuse, et on va effectivement les punir plus que de raison. Et je vous avais parlé tout à l'heure de l'affaire de l'émeute de Clichy.
Oui, bien sûr, l'émeute
de Clichy, si vous voulez, c'est très important parce que ce n'est pas un attentat. C'est une émeute, c'est-à-dire c'est une manifestation anarchiste qui est réprimée par la police. Donc là, on est dans une forme de...
Une manifestation détournée par les anarchistes,
oui, mais
on peut
ça
dire,
toujours.
Oui,
les anarchistes le font encore aujourd'hui dans les cortèges altermondialistes sous la forme des Black Blocs qui escortent les cortèges altermondialistes ou d'indignés. Mais si vous voulez, il faut bien insister sur ce point, c'est-à-dire que au départ, l'anarchisme n'est pas terroriste, et c'est vrai qu'aux yeux de la police, tous les actes de rébellion anarchiste sont identifiés à une forme de terrorisme. Donc il faut être assez prudent dans l'acception, d'autant plus que les terroristes anarchistes à la fin du 19e siècle ne représentent qu'une toute petite partie des anarchistes qui par ailleurs développent des thèses sur anarcho-syndicalistes avec Fernand Pelloutier. Il y a des penseurs anarchistes de très haut niveau, Enrico Malatesta, Michel Bakounine, vous l'avez dit. Et il y a un penseur...
On va revenir sur les sources et sur les origines intellectuelles de l'anarchisme dans un instant.
Oui, parce que même le terrorisme a une source très précise. Il y a un penseur, c'est Pierre Kropotkine. C'est vraiment lui qui va théoriser
On va parler également des Catalans, justement, oui. Et de tout ça. Alors, juste avant d'en venir à cette théorie de l'anarchisme, en quelque sorte. Un mot de cette bande à Bonneau. On a entendu la bande originale du film, là. Elle a terrorisé la population, on peut dire. Est-ce que ces dernières années de la Belle Époque, avant la Première Guerre mondiale, ont été aussi marquées par l'anarchisme qu'on le pense?
Alors, oui et non. C'est-à-dire oui, parce qu'il y avait un folklore autour de l'anarchisme et que c'est vrai que les anarchistes ont développé un style dans le cadre de cette action directe individuelle. Ils ont développé un style qui était très particulier, qui d'ailleurs perdure dans certains textes aujourd'hui post-anarchistes, qui est l'idée qu'il n'y a pas de différence entre les politiques et les droits communs. C'est-à-dire que il est tout aussi décide de poser une bombe contre, par exemple, un parti politique dont on est adverse, par exemple, que de voler une banque, parce que le vrai gangster, c'est celui qui ouvre la banque et non pas celui qui fait le hold-up, disait un slogan de l'époque. Donc, vous voyez, donc, avec la bande à Bono, tout comme d'ailleurs avec Ravachol, on est toujours entre, dans une espèce de zone assez ambivalente, entre l'action politique qu'on peut critiquer, évidemment, ou non, c'est-à-dire l'attentat contre une personnalité symbole qui symbolise l'État, qui symbolise l'autorité, l'asservissement, et puis le pur fric-frac. Et vous avez de parmi ces héros de l'anarchisme aussi un personnage passionnant dont on pourrait parler, qui est Alexandre Marius Jacob,
une sorte d'Arsène
Lupin de l'anarchisme, mais qui vole pour redonner aux pauvres, dit-il. Donc tout ça s'entremêle, et c'est ce qui caractérise cet étrange phénomène terroriste anarchiste, ce que les anarchistes appelaient la propagande par le fait de cette fin 19e, début 20e.
On peut d'ailleurs se demander jusqu'à quel point le personnage de Maurice Leblanc, Arsène Lupin, n'est pas à sa façon un anarchiste.
Absolument.
Nous parlerons d'ailleurs très bientôt d'Arsène Lupin. Je ne connais plus la date exacte, mais je sais que c'est prévu dans le
prochainement dans nos
programmes. Nous venons dans un instant avec Christophe Bourseiller sur les sources mêmes de l'anarchisme. D'où tout cela vient-il? Et effectivement, il faut que nous parlions du fameux Kropotkin, le prince Kropotkin. Qui était prince en plus, c'est vrai, c'est incroyable.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec une émission consacrée aux anarchistes aujourd'hui sur Europe 1, nous sommes toujours avec Christophe Bourseiller. Je vous rappelle le titre de son dernier livre, L'extrémisme, une grande peur contemporaine, aux éditions du CNRS, Franck.
Et à la page 118 de ce livre, je lis ceci. L'anarchisme politique souffre à l'évidence d'une dangereuse imprécision sémantique. Anarchisme, anarchie, autant de formules vagues qui autorisent toutes sortes d'interprétations. L'anarchie désigne-t-elle la plus haute expression de l'ordre, comme l'affirme le géographe Élisée Reclus, ou bien est-elle synonyme de désordre, de chaos? C'est la question effectivement qu'on peut se poser. On a, nous, a priori, à l'idée, l'image du chaos, ça c'est certain, mais l'anarchisme ce n'est pas forcément le chaos, au contraire,
non,
même à l'origine.
Bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a toujours une... c'est vrai qu'autour de ce mot anarchisme flotte une imprécision, ce qui fait qu'il y a des anarchistes de droite comme de gauche, des anarchistes pacifistes comme des anarchistes violents, des individualistes comme des communistes. Finalement, sous la même étiquette, on voit des gens de toutes sortes, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est Pierre-Joseph Proudhon qui a été le premier à inventer, à forger ce terme d'anarchisme, sachant qu'il existait depuis toujours l'anarchie qui symbolisait effectivement le désordre le plus extrême. Et pour Pierre-Joseph Proudhon, et ça c'est très important,
il faut dire en deux mots qui était Proudhon.
Alors Proudhon était un grand théoricien socialiste français. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui a posé l'idée d'un socialisme décentralisé qui s'appuie sur les communautés naturelles, en gros, sur les communautés locales. Et Pierre-Joseph Proudhon se définissait comme anarchiste parce que pour lui, l'anarchisme était un processus de libération individuelle qui visait à lutter contre toute autorité. L'anarchisme, c'est le refus de toute autorité. Sur cette base très imprécise, on trouve de tout. Pierre-Joseph Proudhon disait, pour aller contre justement cette autorité, il faut inventer une société décentralisée, horizontale en quelque sorte, sans chef, où les petites communautés locales auraient tout le pouvoir. Donc c'était un projet social finalement relativement cohérent. Mais c'est à partir de là qu'on va voir surgir des théoriciens anarchistes, mais très dissemblables. Par exemple, au 19e siècle, vous avez d'un côté Michel Bakounine, qui prône un communisme libertaire, il prône la lutte de classe, il pense que l'anarchisme, ça doit être effectivement une société, doit déboucher sur une société communiste. Et puis à côté de ça, vous avez Max Stirner, qui lui est l'apôtre de l'individualisme, qui dit « je suis le roi et je m'en fous des autres, donc seul importe mon bonheur ». Donc vous voyez bien que l'anarchisme, il est extrêmement complexe, et finalement, on ne doit pas s'étonner de voir surgir au 19e siècle, dans le contexte de cette floraison des sociétés secrètes à l'époque, un petit courant anarchiste qui va prôner le terrorisme.
Oui, mais ça n'est jamais qu'un épiphénomène, en fait. L'anarchisme est un courant beaucoup plus vaste.
Et ce
courant, il naît quand même d'une évolution de la société. Il naît de la révolution industrielle, de la prise du pouvoir par la bourgeoisie aussi. Il y a dans l'anarchisme un anti-bourgeoisisme.
Mais vous savez, l'anarchisme est très complexe, parce que l'anarchisme est aussi un humanisme, puisque l'anarchisme, finalement, veut que l'homme réveille toutes ses capacités. Au fond, l'anarchisme se résume par cette devise célèbre « ni Dieu ni maître ». L'anarchisme, c'est la tentative de libérer l'individu. Mais si vous voulez, de ce point de vue-là, évidemment, tous les anarchistes ne sont pas d'accord pour poser des bombes. Ce qui est compliqué, c'est que les anarchistes sont tous des révolutionnaires. Ils veulent tous faire la révolution, mais quand ils invoquent la violence révolutionnaire, ils pensent, pour la plupart d'entre eux, à une violence révolutionnaire de masse, c'est-à-dire les travailleurs dans la rue qui font justement des émeutes comme à Clichy. Mais le fait de poser des bombes, ça, c'est une idée qui va germer dans un tout petit groupe.
Et ce tout petit groupe, nous l'avons vu en France, mais il n'est pas qu'en France.
Il n'est pas que français. Si vous voulez, il y a un penseur qui est très important par rapport à cette évolution. C'est à la fin du 19e siècle, c'est Pierre Kropotkin.
Alors Kropotkin, on en disait un mot tout à l'heure, c'est un prince russe,
Pierre Kropotkin. Donc c'est
un personnage avec une barbe gigantesque.
Ils sont tous barbus,
très spectaculaire.
L'anarchisme
c'est une sorte de Noé.
Oui, voilà. Mais disons que Pierre Kropotkin, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il va développer une théorie. Vous savez, dans l'anarchisme, il y a une théorie qui est la théorie de l'action directe. Alors l'action directe, c'est que les travailleurs, les anarchistes, n'ont pas besoin de passer par des corps intermédiaires, pour reprendre une expression récente, mais peuvent aller directement s'approprier quelque chose, déclencher une grève sans passer par les syndicats, etc. Et Pierre Kropotkin va reprendre à son compte le terme d'action directe en proposant l'idée d'une action directe individuelle et qu'il appelle l'insurrectionnalisme. C'est l'idée de placer l'insurrection partout et l'idée que finalement l'anarchisme étant un processus individuel, des individus peuvent en quelque sorte exercer ce qu'on appelait à l'époque la propagande par le fait. Donc je tue cette malheureuse Sissi par exemple et je tue non pas cette femme complexe que nous connaissons, mais je tue le symbole de la monarchie et donc en la tuant, je montre au peuple que les monarques ne sont pas immortels. Voilà en gros quelles étaient les thèses de l'insurrectionnalisme. Évidemment tout ça était extrêmement dangereux et surtout très manipulé, parce que le dernier attentat insurrectionnaliste marquant, je vous le rappelle, bien plus tard au XXe siècle, c'est l'incendie du Reichstag. Et au fond, on voit bien à quel point ces incendies, ces actions individuelles anarchistes, étaient toujours très ambivalentes.
Oui, vraiment, elles n'ont pas de sens clairement défini, en fait.
C'est le problème de l'imprécision sémantique de l'anarchisme. Oui, et le fait que Proudhon lui-même, lorsqu'il parlait de l'anarchisme, employait parfois l'anarchisme sous le nom de chaos. Donc il était lui-même très ambivalent.
Quelle est la géographie de l'anarchisme? Nous avons vu les anarchistes français, on vient de parler de Kropotkin, lui c'est plutôt l'Espagne en fait. Hein.
Alors, oui, aussi. Et l'Italie. L'Italie aussi avec Enrico Malatesta, l'Espagne avec après...
La Russie, bien sûr, on l'a dit.
La Russie, la Suisse, il y a toute une fédération jurassienne, il y a tout un...
Finalement, ça n'a pas l'air très protestant, c'est là que je voulais en venir. On n'a pas...
Je crois qu'il faut du catholicisme pour nourrir l'anarchisme qui se nourrit d'une haine terrible contre l'Église, comme on le verra bien plus tard. Mais ce sont des courants internationaux. Parce qu'il y a également, il faut bien insister sur le fait qu'il y a également des courants anarchistes très vivaces en Amérique latine, par exemple en Bolivie, en Argentine, de très anciens courants anarchistes qui apparaissent à la fin du 19e siècle et même en Chine.
Est-ce qu'il n'y a pas dans cet anarchisme la volonté de nier des évolutions historiques très longues, la création d'institutions, le raffinement de ces institutions, etc. Comme vous le dites, il y a un court-circuit finalement dans cette pensée-là. L'idée est que chacun peut agir directement et déstructurer, casser en quelque sorte sans passer par les corps intermédiaires.
Alors, écoutez, il y a de très grandes ressemblances entre les actes des anarchistes à l'ouest de l'Europe et les actes des nihilistes russes qui eux veulent simplement tout détruire. C'est vrai qu'il y a de très fortes ressemblances. On voit bien que l'anarchisme part d'un coup de colère, si vous voulez. Et puis c'est le désir aussi de marquer une différence. Vous savez, il faut insister peut-être déjà à l'époque sur l'aspect esthétique de l'anarchisme. Les anarchistes, c'est le drapeau noir. On est vêtu de noir, il y a une beauté de l'anarchisme.
C'est presque un folklore.
Il y a une forme de dandisme. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tant d'artistes ont été anarchistes. Et puis, peut-être dans le positif, l'anarchisme, c'est l'idée de l'individu roi. Et puis aussi, c'est l'idée de refuser l'hypocrisie du monde. C'est l'idée de dire, regardez, ce monde qui se prétend démocratique, etc., au fond, n'est qu'un monde d'exploitation. Et vous verrez, finalement, tout au long du XXe siècle, dans cette descendance de l'anarchisme, peut-être des imbéciles, peut-être des terroristes, des gens violents, mais aussi de grands penseurs, de grands artistes, de grands intellectuels. Pourquoi Albert Camus ou Brassens auraient-ils été anarchistes? Ils l'ont été.
Pour plagier Toynbee, je dirais que l'anarchisme pourrait être un ferment aigre du vin nouveau de l'individualisme dans les vieilles outres du tribalisme.
C'est joli.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Nous sommes toujours avec Christophe Bourseiller. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'anarchisme.
Léo Ferré disait « Les grands anarchistes que je connais, eh bien tu ne les connaîtras jamais. Ils sont terrés quelque part, terrés dans un coin. Ils ne voient personne, ce sont des solitaires, des ermites. Et ceux-là, tu ne peux pas savoir comme ils sont merveilleux. Ce sont des oiseaux. »
Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent. La plupart espagnols. Allez savoir pourquoi. Faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des peignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leur rêve au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Il y en a qu'un sur 100 et pourtant ils existent. La plupart fils de rien ou bien fils de si peu. On ne les voit jamais, et lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes.
Léo Ferré sur Europe 1 avec les anarchistes Franck.
Quand Léo Ferré parle des anarchistes, il dit du mouvement que c'est la formulation politique du désespoir. Ce qui ne fait pas plaisir à tout le monde, écrit Jeanne Morcellet. Au début de la révolution cubaine, précise-t-elle, alors que tous les regards et espoirs sont rivés sur Fidel Castro, l'empêcheur de tourner en rond crée Salut Bitnik, puis le tango Nicaragua au travers desquels il a été attaqué et pour cause. Ferré a aussi beaucoup aidé les anars, toujours à sa façon. Voici ce qu'écrit Maurice Fraud. Après 68, Léo est l'artiste qui a donné le plus grand nombre de galas bénévoles au profit de cause, pour les ouvriers grévistes maghrébins à Lyon, pour le Secours Rouge, au service des victimes de lois anticasseurs. Léo a beaucoup donné par sa présence, y compris pour le mouvement anarchiste, quitte à passer pour un otage. Christophe Bourseiller, oui. la figure emblématique dans les temps récents.
Oh, écoutez, si on se remet dans l'esprit des années 60, là on est beaucoup plus récent bien sûr, c'était un militant anarchiste, mais au sens qu'il donnait lui-même, c'est-à-dire l'individu roi. C'était un individu, l'anarchiste, c'est celui qui dit le contraire de tout le monde, c'est celui qui a des convictions, il est contre la société, il est dans son coin, vêtu de noir. Et Léo Ferré incarnait effectivement ça avec beaucoup de... C'était un vrai militant de la Fédération anarchiste, et comme Georges Brassens, vous savez, on aurait pu également évoquer Georges Brassens. Tant de grands artistes pour qui il était important de s'inscrire dans cette tradition philosophique. Je crois que ce n'était pas des gens qui pensaient que véritablement ils allaient assister au grand soir, où ils n'avaient pas l'intention évidemment de poser une bombe, mais c'était des gens qui, pour eux, l'anarchisme, c'était une tradition philosophique de libération individuelle. Je crois que c'est important d'insister sur ce point. Et il y a eu d'autres grands mouvements culturels qui se sont réclamés de l'anarchisme par la suite. Je pense par exemple au punk. Vous savez, le mouvement punk dans les années 70-80, c'est un grand mouvement dans le rock'n'roll, c'était des gens qui se réclamaient de l'anarchisme.
Est-ce que le mouvement dada peut être inscrit dans cette lignée-là ?
Totalement. Le dadaïsme des origines, c'était vraiment une transposition sur le plan de l'art de la mentalité anarchiste. Et toutes les avant-gardes aujourd'hui, tous les gens qui se placent justement en dehors du mainstream, sont les héritiers de ce courant-là.
Autrement dit, sur un plan politique, l'anarchisme ça n'est pas un mouvement politique qui est donné grand chose, mais sur un plan culturel il y a un héritage
aussi à travers la pensée. Par exemple, il y a eu un grand moment libertaire en France, puisque les anarchistes sont pour la liberté totale, donc on les désigne comme libertaires. Il y a eu un grand mouvement libertaire qui était mai 68.
Alors, bien sûr.
Et qui est le théoricien le plus important de mai 68? C'était Guy Debord, qui lui-même était donc le fondateur de l'International Situationniste, mais pour résumer très rapidement, les situationnistes se plaçaient dans l'héritage critique de la pensée anarchiste. C'était des gens qui étaient comme Léo Ferré, c'est-à-dire qui se foutaient de la gueule de Cuba, de la Chine populaire, qui étaient complètement en dehors de tout ça, parce qu'ils étaient, eux, dans une opposition frontale face à une société qui leur paraissait vouloir tout dominer, y compris nos âmes.
Et ils essayaient évidemment d'apporter un certain nombre d'éléments pour en sortir.
Ah ben, Guy Debord est l'un des grands, si vous voulez, théoriciens de la vie quotidienne au XXe siècle. Il a annoncé Jean Baudrillard et il a pris la suite de d'autres penseurs qui étaient notamment Jacques Ellul ou encore Henri Lefebvre de ce point de vue-là.
Vie et mort de Guy Debord. Guy Debord, donc 1931-1994, c'est la biographie que vous lui consacrez. C'était très bien d'en parler. Christophe Bourseiller, Guy Debord, donc c'est édité chez Pascal Gallaudet.
C'est une réédition augmentée, en fait. Hein. Oui, bah bien sûr, il y a eu tellement d'éléments sur Guy Debord. Moi, j'ai publié mon livre au départ en 1999. Et puis par la suite, il y a eu... Moi, j'ai ouvert la boîte de Pandore. Depuis lors, il y a eu la divulgation de très nombreux éléments biographiques sur ce personnage secret, mystérieux et fascinant. Et donc, j'ai voulu évidemment ajouter de nombreux éléments que j'ai inclus dans cette édition.
Mai 68, pour la France, c'est évidemment un mouvement. Alors, vous nous avez dit libertaire. Il faudrait peut-être distinguer une fois pour toutes les deux choses. Libertarisme et anarchisme.
Ah bah c'est-à-dire que nous parlons des anarchistes qui sont donc contre toute autorité, anarchique, le refus de l'autorité.
Qui n'est pas l'anomie, qui est un phénomène social passif.
Ça, c'est le désordre. Hein. Nous parlons du refus
volontaire
de toute autorité
et politique,
verticale, pourrait-on dire. Et du coup, ce refus détermine le culte de la liberté absolue. Donc, comme je suis anarchiste, je serai forcément libertaire. Là ne va pas sans l'autre.
J'en profite, je vous ai sous la main pour parler de choses, je vous avoue, dont je ne suis pas très très familier, mais j'ai toujours entendu parler d'anarchisme de droite. Ça paraît un oxymore.
On parlait tout à l'heure de l'imprécision sémantique autour de l'anarchisme. Ouais. Il y a effectivement un fort courant anarchiste de droite culturel, alors qui s'incarne justement dans un culte de l'individu. Mais là, on est dans le rejet des valeurs de la gauche. Alors on peut penser à Michel Audiard, par exemple, ou l'auteur de Polar ADG. Enfin, il y a toute une kyrielle, évidemment, d'écrivains, souvent très drôles et très gouailleurs, qui s'inscrivaient dans ce qu'on a appelé l'anarchisme de droite, effectivement, qui lui-même, bien sûr, est très pluriel, sinon ça ne serait pas drôle.
Aujourd'hui, qu'est devenu l'anarchisme ?
Mais l'anarchisme continue.
Il y a un anarchisme culturel, ça, on l'a vu.
Et heureusement, bien sûr, il y a toujours ces avant-gardes qui continuent à nous à frétiller, à nous heurter. Et puis, il y a un anarchisme politique réel qu'on voit de façon très visible lorsqu'il y a des manifestations d'indignés. Ces gens vêtus de noir sont les héritiers, bien sûr, des anarchistes de Bakounine et de Proudhon et de Bakounine.
Ça fait des gentils anarchistes, les indignés, non ? Ça, c'est l'impression que ça donne, comme ça ?
Alors, les anarchistes sont parfois très gentils, puisque dans l'anarchisme, il y a aussi un courant non-violent qui se réclame de Gandhi. Donc, les anarchistes ne sont pas toujours des gens agressifs. Et puis, il faut dire aussi que l'insurrectionnalisme de Kropotkine a disparu. Il y a très, très peu, aujourd'hui, d'anarchistes qui envisagent l'acte terroriste individuel. On a parlé récemment de résurgence, notamment en Grèce, où il y a eu quelques attentats, où il y a une forte communauté anarchiste. Néanmoins, ce n'est rien comparé à ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle avec Émile Henry, Ravachol, Bonneau et les autres.
Est-ce qu'un certain nombre des mouvements terroristes modernes et même encore actuels peuvent être assimilés à une forme dévoyée d'anarchisme ?
Moi, je ne crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, d'abord, il n'y a plus vraiment de terrorisme, entre guillemets, d'extrême gauche aujourd'hui. On peut dire que ce sont des formes qui ont un peu disparu. Et en tout état de cause, je ne vois pas aujourd'hui, à part peut-être dans le cas des petits attentats grecs, je ne vois pas de résurgence, fort heureusement peut-être, de l'insurrectionnalisme du 19e siècle.
Dans votre ouvrage, donc, qui s'appelle « L'extrémisme, une grande peur contemporaine », qui est un ouvrage non seulement historique mais aussi sociologique et d'actualité, hein, puisque vous traitez de l'extrémisme dans tous ses aspects, vous ne consacrez finalement que très peu de place à l'anarchisme, parce qu'il est difficile à définir précisément.
Non, mais j'insiste sur le fait que justement, l'anarchisme est fortement pluriel et je crois que c'est d'ailleurs le premier livre, sans doute, où on approche l'anarchisme aussi comme une forme droitière.
C'est ça, oui.
J'évoque très longuement le cas des anarchistes de droite qui sont beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît, par exemple.
Les extrêmes droites, les extrêmes gauches.
Et puis les inclassables, bien sûr. Il y a aussi ceux qui sont réfractaires à toute forme de classification. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les gens qui sont en marge, les gens qui pensent en marge parce que beaucoup d'idées neuves viennent des marges. Donc, au moins, on les observe. Puis, en plus, ils ont le mérite de ne pas s'engager par opportunisme ou par carriérisme.
Oui, ils ont... est-ce qu'on peut dire que les extrémistes de gauche, de droite, sont aujourd'hui les derniers idéalistes ? Je sens que nous allons avoir quelques réactions.
Je pense sincèrement que dans les marges politiques, c'est le dernier endroit où on peut brasser des idées neuves aujourd'hui. J'en suis persuadé. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu tout au long du XXe siècle. Les idées importantes, le mouvement des femmes, l'écologie, Internet, ce sont des idées idées qui ont surgi dans les marges de la société et principalement dans les marges anarchistes.
Ah oui, c'est quand même intéressant. Il y aurait donc quelque chose de salutaire dans certaines formes d'extrémisme.
Il est salutaire de se révolter, non ?
L'extrémisme de Christophe Bourseiller, une grande peur contemporaine, c'est donc aux éditions du CNRS. Le livre vient de sortir, hein, je crois.
Tout à fait.
Et puis, vous rééditez donc « Vie et mort » de Guy Debord.
Personnage fascinant.
Personnage extraordinaire.
Grand écrivain qui aujourd'hui est traduit dans plus de 20 langues.
Qu'est-ce qu'on conseillerait de lire de
Guy Debord ? Il faut lire avant tout un livre très beau, petit livre qui s'appelle « Panégyrique, tome 1er » dans lequel Debord se raconte, qui est une très bonne introduction à son œuvre. Et puis après, il faut lire son maître ouvrage qui s'appelle « La société du spectacle », mais qui est un ouvrage théorique. Mais moi, je recommanderais de commencer par « Panégyrique » parce que simplement, c'est très beau.
Merci beaucoup Christophe Bourseiller. Nous nous retrouvons à la télévision sur France 3 bientôt, ce sera le 7 avril. Je donne déjà rendez-vous à nos auditeurs car c'est pas une émission comme les autres. Nous allons parler le 7 avril de la guerre de Vendée.
Terrible événement.
Qu'on puisse dire, c'est que je pense que cette émission devrait faire parler un peu d'elle car nous allons dire des choses qui ne sont jamais dites dans les grands médias.
Nous allons parler,
alors là on sera dans
on
une
sera
autre forme.
On sera pas politiquement correct, mais enfin, ça nous arrive.
Comme d'habitude, oui.
Ça ne change pas ça.
Merci beaucoup Christophe. Bonjour Roland.
Et bonjour Franck. Qu'est-ce que vous faites là à 14h? Est-ce que vous ne pouvez pas rester avec nous?
Je vais essayer de déjeuner si vous voulez bien.
Oh non, on a besoin de vous pour les experts aujourd'hui puisque nous traitons du sujet « Quel trésor dans nos greniers et placards ?»
Ah, mais c'est bien ça.
Tous les trésors ont une histoire et sans vous, la mission sera un peu moins savoureuse. Vous êtes sûr que vous n'avez pas envie de rester, Franck?
Je vais aller voir ce qui se passe dans mon propre grenier si vous voulez bien.